Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'Entreprendre. On s'intéresse à l'énergie et plus spécialement à un fournisseur local de gaz vert produit en Occitanie. C'est une filière en plein développement et qui va permettre de valoriser nos déchets. Le biogaz est l'une des alternatives aux énergies fossiles. Rémi Compagnon, le fondateur d'ILEC, est notre invité. Depuis le mois de décembre, ILEC, un fournisseur d'énergie verte basé à Toulouse, propose aux particuliers du gaz vert et exclusivement produit en France. Bonjour Rémi Compagnon.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de l'entreprise ILEC. Qu'est-ce que ça veut dire ILEC ?
Il n'y a pas de signification liée au mot ILEC. C'est simplement un raccordement, je dirais, au mot électricité.
Ouais.
Voilà, à l'origine, on faisait que d'électricité. Aujourd'hui, on fait du gaz. Mais on a gardé notre nom initial.
D'accord. Alors, voilà. Vous faisiez de l'électricité, c'est-à-dire que vous vendiez de l'électricité ?
Alors, exactement. On est dans le métier plus connu que fait EDF depuis longtemps, qui est la fourniture d'électricité. Donc, on adresse le même service à destination du particulier, avec une différence significative pour nous. C'est qu'on adresse l'énergie qu'on a préalablement achetée, sourcée, auprès de producteurs français renouvelables.
D'accord, c'était le cas pour l'électricité.
C'était le cas pour l'électricité, donc on parle d'électricité issue des éoliennes, de panneaux solaires ou d'électricité hydroélectrique.
D'accord. Et vous avez complètement changé, on va dire, d'optique. Vous êtes parti vers le gaz.
Alors, on n'a pas changé, on a mis une continuité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend encore de l'électricité,
bien évidemment.
Mais il y a eu un souhait, parce que nos clients nous en ont beaucoup parlé, puisqu'ils ont souvent chez eux du gaz et de l'électricité. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire proposer la même offre à nos clients pour le gaz ?
Pour le gaz. Alors, qu'est-ce qu'un gaz vert ?
Alors, un gaz vert, qu'est-ce que c'est ? C'est un gaz qui est renouvelable. Donc, il est dans un circuit qui permet de pouvoir le renouveler de manière quasiment illimitée, à la différence du gaz naturel, qui est le gaz aujourd'hui qu'on consomme en France,
Qui est d'origine fossile, d'accord. Alors, qu'on soit bien clair, c'est-à-dire que vous pouvez vendre aujourd'hui du gaz écolo, vert ?
Tout à fait.
100% vert, 100% produit en France et bientôt en Occitanie.
Voilà. Alors, si on explique ce que c'est que le gaz vert, c'est en fait le principe de recycler un déchet en le montant en température dans une cuve. Et cette montée en température crée des bactéries et ces bactéries créent du gaz. C'est la méthanisation. Voilà aujourd'hui ce qu'on appelle la dénomination du gaz vert, c'est du biométhane.
C'est du biométhane, oui, tout à fait. Voilà. Alors, comment on fabrique, vous avez évoqué ce procédé de fabrication il y a quelques secondes, mais plus précisément, comment on le fabrique et qui le fabrique, ce gaz vert ?
Alors, comment on le fabrique ? Donc, c'est le mécanisme de méthanisation, donc c'est la fermentation que vous pouvez connaître dans votre jardin. Si vous mettez du fumier, ça fermente. Sauf qu'on récupère le gaz et on le filtre et on le réinjecte dans le réseau GRDF, le réseau commun de gaz. Et qui le fabrique ? C'est deux typologies. Soit c'est des collectivités qui ont des déchets qui vont recycler, mais c'est de manière plus importante, c'est les agriculteurs, plutôt laitiers, qui ont déjà, eux, beaucoup de déchets liés à l'exploitation laitière, et du coup, qui récupèrent le résidu et qui, du coup, créent du gaz.
D'accord. Donc, vous ne fabriquez rien, on est bien d'accord.
Donc, nous, on est simplement l'intermédiaire entre ces producteurs d'énergie verte et ces particuliers qui ont envie pour un service équivalent qu'aujourd'hui vous avez chez EDF ou d'autres fournisseurs, de pouvoir reverser l'argent aux producteurs.
D'accord. Alors, c'est une nouvelle filière, c'est pas un nouveau métier ?
Alors, le métier de fournisseur, ce n'est pas un nouveau métier, mais en fait, la privatisation de l'énergie en France a permis de se développer des acteurs comme nous. Et du coup, d'un côté, côté fournisseur, mais côté producteur, il y a aussi une filière qui se
démarre.
La filière du biométhane qui a démarré réellement il y a 2-3 ans en France et qui va se développer partout en France et en Occitanie.
C'est ça, voilà. Donc ça, c'est un nouveau métier. Alors, qu'est-ce que ça, j'allais dire, ça apporte de plus pour le producteur? C'est, en général, hein, ce sont des, vous l'avez dit, ce sont des agriculteurs qui se lancent dans cette filière.
Exactement.
Parallèlement à leur activité.
Exactement. Et c'est ça qui est fantastique dans cette filière, c'est qu'on... On crée pas quelque chose de fictif. On a déjà un déchet dont on a du mal à le valoriser. Ouais. Et en fait, de ce déchet-là, on en crée deux choses. D'une part, on le remet dans une économie circulaire qui est le besoin énergétique qu'ont les foyers pour le chauffage notamment. Et on permet à des agriculteurs de pouvoir générer un deuxième revenu significatif pour leur activité. Et ça permet de pouvoir pérenniser et développer leur activité.
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Donc c'est très séduisant.
C'est une nouvelle piste de travail et de valorisation de leur travail également.
Exactement. Et j'invite d'ailleurs les agriculteurs qui peut-être n'ont pas encore connaissance de ce mécanisme-là. Il y a des regroupements d'agriculteurs qui se font, il y a pas mal de projets, donc il faut se renseigner. Et aujourd'hui, c'est une filière d'avenir.
C'est une filière d'avenir pour vous, ouais, tout à fait, à valoriser.
Voilà.
Alors, rappelons comment fonctionne aujourd'hui notre approvisionnement en gaz en France, actuellement.
Alors, c'est une question intéressante que se posent pas trop les gens, parce que c'est un peu de l'acquis.
Oui, c'est ça.
On ne s'est jamais trop posé cette question. En fait, aujourd'hui, quand on parle de gaz naturel, c'est du gaz qui est importé à 99%. C'est-à-dire que la France importe quasiment toute sa production, enfin, tout son besoin en gaz de pays qui sont excédentaires. Donc, l'Écosse, la Russie, l'Algérie et un peu les Pays-Bas.
Beaucoup la Russie, hein.
Beaucoup la Russie, mais pas que. Oui, effectivement, elle est en tête. Donc, là, on est plus sur un sujet macroéconomique où il y a un enjeu aujourd'hui d'avoir une indépendance énergétique au niveau du gaz. Parce que forcément, on ne sait pas dans quelles conditions est foré ce gaz. Donc, c'est important et c'est, à mon avis, plus pertinent de connaître un petit producteur laitier qui va faire du gaz plutôt qu'une personne, une entreprise qui va forer en Russie. Dans des conditions ou dans un contexte qu'on ne connaît pas.
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est sur le marché. On fonctionne de cette façon-là. Mais est-ce que dans les années qui viennent, on aura, j'allais dire, suffisamment de ressources pour se suffire?
Ben, c'est le challenge, on va dire, qui est relevé par la, on va dire, la stratégie énergétique qu'il y a en France, qui est de dire, ben, tiens, est-ce que cette filière potentiellement peut permettre à la France d'être autonome en gaz? Donc la réponse est oui. La question c'est, faut que tout le monde s'y mette. Donc il faut que le mécanisme d'accompagnement et de subvention soit cohérent. Il faut que les agriculteurs se lancent. Et il faut qu'in fine, il y ait des acheteurs, donc des consommateurs, qui décident de sauter le pas.
Ouais.
Et nous, on est humblement au milieu entre les producteurs et les consommateurs pour permettre de faire valoriser cette filière et de permettre à des consommateurs de faire un geste.
Alors, vous avez des appels aussi de producteurs qui peuvent être intéressés par cette nouvelle filière. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Alors, on a des appels, bien évidemment. On n'est pas les seuls qui portons cette filière, mais en tout cas, on invite tous ces agriculteurs à se renseigner, à nous contacter. Et à contacter GRDF également, qui est le gestionnaire de réseau qui accompagne les porteurs de projets pour mettre en place une unité de méthanisation.
Mmh. Ça bouge quand même en Occitanie. Il y a quelques mois, c'était en octobre, je crois, Carole Delga, la présidente de région, a inauguré une unité de méthanisation dans le Tarn.
Alors, tout à fait. Je vous disais tout à l'heure que ça fait à peu près 3 ans que l'activité en France, que la filière, on peut dire qu'elle a démarré. L'Occitanie a démarré un peu en retard sur la partie biométhane, mais elle est très en avance sur la partie électricité, puisque c'est une région qui produit beaucoup d'énergie via l'hydroélectricité, via les panneaux solaires et via les éoliennes qu'on voit quand on prend le volant. Y a un petit peu de retard sur la partie méthanisation, mais qui est en train, effectivement, il y a une prise de conscience. Il y a un contexte aussi, c'est que les agriculteurs ont moins de déchets. Parce que la typologie de l'agriculture est différente qu'en Bretagne, par exemple. Mais il semblerait en tout cas que les collectivités et les groupements d'agriculteurs sont en train de s'organiser. Donc je pense que dans quelques temps, on verra des petites cuves dans nos campagnes avec des agriculteurs qui produisent du gaz.
C'est ça, ça fait des petites cuves ou des dômes aussi.
C'est des dômes, tout à fait. Oui, je vous dis cuves, mais c'est effectivement plutôt dans l'autre sens. C'est des dômes.
C'est des dômes, ouais. On verra fleurir ça dans nos campagnes. Est-ce qu'il faut un équipement particulier pour recevoir ou acheter du gaz vert lorsqu'on est chez soi? Ou un professionnel, pourquoi pas?
Alors, il n'y a pas d'équipement particulier pour la simple raison, c'est qu'en fait, on est dans un mécanisme en France où l'énergie arrive miraculeusement dans son logement. On ne se pose pas trop de questions.
Et, oui.
Et en fait, c'est le gestionnaire de réseau. Donc, pour l'électricité, c'est Enedis. Pour le gaz, c'est GRDF qui a la mission de service public d'acheminer l'énergie. Nous, notre simple, je dirais, le service qu'on amène à nos clients, c'est le fait d'acheter l'énergie auprès de producteurs qui vont l'injecter dans le réseau et permettre à des consommateurs d'acheter cette énergie sur le réseau. Mmh. Donc en fait, on fait un pont. Le service pour le client est le même, mais le bénéfice, c'est que je vais reverser l'argent au producteur que j'ai choisi.
Au producteur, d'accord. Le prix, c'est plus cher d'acheter, de passer par vous ou de rester sur le réseau classique?
Ce qui est incroyable, c'est qu'on se bat quotidiennement en interne chez ILEC pour maintenir un prix équivalent. Et on a envie de proposer un service qui est simple d'accès, qui est facile. C'est facile de rejoindre ILEC et c'est un peu moins cher que le tarif réglementé.
Ouais. Alors voilà. On peut donner un exemple, une famille de 4 personnes qui a un budget sur un budget annuel en gaz,
on va dire
qui se chauffe au gaz.
Une famille qui se chauffe au gaz qui va dépenser 80 euros, on va avoir
par mois, bien sûr,
on va avoir quelques euros d'économie, 2, 3, 4 euros, ça ira pas au-delà. On espère faire mieux, mais on est dans structurellement. C'est déjà pas mal et l'idée pour nous c'est d'amener un service un peu moins cher que le prix public.
Vous restez avec nous, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec notre invité Rémi Compagnon, fondateur de l'entreprise ILEC. Bonjour Denis Avril.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour le goût d'entreprendre. Vous êtes un de nos référents éthiques pour cette émission. Première question Denis, à notre invité.
Oui, donc vous êtes passé au gaz après l'électricité. Vous faites toujours de l'électricité. J'ai un peu l'impression quand même que ce n'est pas le même métier. Je m'explique, en électricité, il y a des fournisseurs installés, il y a déjà des fournisseurs, j'allais dire, verts, entre guillemets, bien installés depuis un moment. Est-ce que là, j'ai l'impression que vous avez quand même un rôle en plus de susciter la production, d'essayer, parce qu'elle n'est pas importante actuellement, la pollution, la production de gaz biométhane comme ça.
Alors, on a envie de la susciter, oui, on aimerait bien, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a 67 sites. Aujourd'hui, qui injecte en France du biométhane. Donc effectivement, par rapport à 10 millions de consommateurs, le chemin est encore long. Hein. Il faudrait plusieurs dizaines de milliers de sites. Donc ça démarre. Mais on pense et on a envie de développer cette filière parce qu'on y croit énormément.
Oui, je comprends, oui, absolument. Il y a une autre différence quand même, j'ai un peu l'impression, c'est que l'électricité, c'est de l'électricité. C'est de la différence de potentiel, c'est des électrons, et elle est la même partout pour tout le monde. Est-ce que là, le gaz, est-ce que le biométhane qui est fabriqué a exactement la même composition que le gaz naturel? Alors, il peut très bien se mélanger, bien entendu, puisqu'il est mélangé dans les réseaux, mais est-ce que c'est la même composition au départ?
Au départ, non, mais en fait, il s'avère que dans le mécanisme, le gestionnaire de réseau qu'on parlait tout à l'heure, GRDF, impose, met des contraintes pour que le gaz qui soit dans le réseau soit le même. Donc il y a une densité qui est un peu différente, mais les critères sont assez... GRDF est assez exigeant sur ça, et au final, le gaz est identique. Ça veut dire qu'on chauffera pareil son logement. Non, son logement ou sa poêle avec sa pomme de terre, potentiellement, se chauffera pareil. Enfin, il n'y a pas de différence dans le service côté du particulier.
Au niveau des installations, imaginons un producteur qui décide donc de vendre son gaz, comment ça va fonctionner pour lui au niveau de l'installation, du coût, etc. Qui va prendre tout ça en charge?
Alors, c'est une installation qui est coûteuse.
Eh oui.
c'est quelques millions d'euros.
Parce que tout à l'heure, donc on parlait de dômes installés dans les champs, donc ça, très bien. Ça, c'est certainement pas le plus cher, c'est la partie émergente. Mais ensuite, combien ça va coûter?
Il y a un coût de départ qui est significatif, qui est porté par des subventions. Mm-hmm. Ça veut dire que l'État accompagne le développement de la filière et joue un rôle clé. C'est qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de subventions, il n'y aurait pas de nouveaux projets.
Ouais,
et aujourd'hui, l'agriculteur qui va monter ce projet ou les agriculteurs qui vont monter le projet ont 15 ou 20 ans pour amortir leur investissement. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le mécanisme fait que c'est financièrement intéressant pour eux.
D'accord. Denis, une autre question?
Oui, pendant qu'on est sur le sujet du coût de production, je voudrais quand même vous poser la question sur les subventions. Notamment, c'est dans le débat actuel, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut subventionner et donc tirer de l'impôt sur les autres pour avancer vers l'écologie, ou est-ce qu'il faut un équilibre un peu plus proche? On est en plein dans le débat actuel des taxes carbone, tout ça. Est-ce que ce débat et cette question qu'on est en train de poser, qui est une question quand même fondamentale, peut freiner un peu ce développement, que ce soit d'ailleurs pour l'électricité, puisqu'on sait que l'électricité éolienne ou photovoltaïque est très subventionnée aussi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, notre avis, c'est que quand il y a une nouvelle filière qui se crée, il y a des coûts de structure. C'est le cas, par exemple, du solaire. Aujourd'hui, quand vous achetiez un panneau solaire il y a 15 ans, il n'a pas le même coût qu'aujourd'hui. Donc en fait, s'il n'y a pas une subvention, les projets ne se font pas. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on trouve l'équilibre et qu'on soit en mesure de pouvoir adapter la subvention en fonction du coût de production. Et être capable de dire, aujourd'hui, je subventionne 100, après, demain, ce sera plus que 70, et après-demain, plus que 50. Et du coup, réussir à piloter ce coup de pouce qu'on va donner aux porteurs de projets. Donc nous ce qu'on pousse, c'est que les projets se fassent, et il faut qu'il y ait une collaboration intelligente entre le gestionnaire de réseau, l'État et les porteurs de projets.
Mais est-ce que la baisse du coût, et donc le fait qu'on puisse arriver un jour qu'il n'y ait plus de subvention, n'est pas lié aussi à une augmentation d'échelle, et ce qui fait que les petits producteurs peuvent être éliminés, que ce soit des gros producteurs ou des gens qui rassemblent les déchets de toute une partie, de toute une région, qui eux effectivement pourront faire cette production, pas les autres?
Alors c'est l'enjeu de cette filière, c'est le déchet. Ça veut dire qu'il faut être capable, pendant une durée assez longue, quand on parle d'un projet qui va produire pendant 15 ou 20 ans, il faut être capable pendant la même durée d'alimenter l'outil de production, donc avec du déchet. Donc effectivement, il y a des questions et des enjeux qu'il va falloir piloter pour pas que le déchet prenne trop de valeur et qu'il y ait de la spéculation sur le déchet. Donc il faut que le déploiement des projets soit bien en harmonie avec la capacité qu'on a en déchet. Le but, c'est pas que des agriculteurs demain produisent que du déchet pour le vendre et pour créer du gaz.
C'est ça, oui. Voilà. De faire une filière parallèle.
C'est un peu ce qui se passe en Allemagne, parce que ça a été mal encadré. Et aujourd'hui, on trouve des agriculteurs qui créent du déchet pour créer l'énergie.
Ouais, c'est ça.
Et donc là, on se marche sur la tête. Mmh. Donc le but, c'est juste
c'est
de dire...
Ça, c'est pas le but,
Et c'est pas le but. Et je crois que la France a regardé un petit peu ce qui se fait en Allemagne, et la législation est différente.
Revenons sur votre entreprise, puisqu'on parlait de budget et d'argent. Il faut que vous puissiez gagner de l'argent.
Voilà.
Votre seuil de rentabilité, combien vous estimez devoir faire entrer de clients, de nouveaux clients chaque année?
L'objectif pour nous, c'est de rendre accessible l'énergie verte au plus grand nombre. Donc il y a un vrai challenge pour nous de pouvoir acheter cette énergie au bon prix et de la revendre à un bon prix également. Donc l'idée, c'est de prendre un revenu qui nous paraît cohérent par rapport aux services qu'on délivre. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? En fait, ILEC, c'est une entreprise jeune, dynamique, qui a misé sur le numérique. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on a mis en place des outils qui permettent d'avoir un ensemble d'opérations automatiques qui évitent d'avoir nos équipes clients ne font pas d'administratif. Elles aident nos clients pour souscrire en cas de problème, mais on a réussi par le numérique à avoir beaucoup moins de coûts que les acteurs historiques.
D'accord. Vous avez une plateforme de mise en relation, une plateforme...
Donc c'est une plateforme sur le site ilec.fr. Vous choisissez votre producteur, vous souscrivez automatiquement en ligne, tout seul.
Ouais.
On vous accompagne s'il y a un problème ou un dysfonctionnement, mais vous êtes autonome sur la plateforme. Et ça permet d'avoir moins de personnes derrière en back-office et du coup d'avoir un coût in fine de l'énergie qui est plus accessible.
Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui?
On est une quinzaine.
Ah oui, quand même.
Voilà.
Basé sur Toulouse. Denis, une autre question.
Oui, donc vous parlez de production locale. Quand on parle de production locale, on pense souvent en consommation locale aussi. Est-ce qu'il y a moyen de faire un circuit court là, c'est-à-dire qu'en fait, autour d'un certain nombre d'exploitations qui font du déchet et qui produisent, ce soit effectivement localement que ce soit consommé et réellement ce qui a été produit. Donc ça veut dire échapper aux réseaux GRDF et peut-être revenir au système de bonbonnes avec des chargements et même peut-être un peu plus loin, on est sûr à ce moment-là qu'on aura du gaz vert chez soi puisque c'est celui qui a été produit et qui est dans la bonbonne qu'on a acheté ou qu'on a fait remplir au fond de son jardin.
Alors, ce modèle-là, il est, pour l'instant en tout cas, économiquement, je suis pas sûr qu'il soit viable. Nous, on a une vision qui est assez claire. C'est que il faut valoriser les projets sur son territoire localement. Par contre, l'objectif, c'est que le territoire français soit autonome soit n'importe plus du gaz, mais qu'on ait du gaz vert pour l'ensemble du territoire. Donc c'est compliqué de dire moi dans mon territoire il se passe ça et chez les autres c'est différent. L'idée c'est que tout le territoire soit vert et c'est plutôt nous ce qu'on porte plutôt qu'il y ait un territoire indépendant et l'autre qu'il ne soit pas. Voilà, donc le gestionnaire de réseau GRDF aide le développement de cette filière. Donc il n'y a pas d'intérêt pour moi de ne pas passer par les tuyaux de GRDF.
On pourrait devenir autonome en France complètement en gaz?
Ben, nous, c'est l'objectif. Nous, c'est ce qu'on a envie de porter comme message au grand public. Mm-hmm. Dans 30 ou 40 ans, si l'ambition de la filière est maintenue, oui, on sera autonome en gaz vert. Et vous fournirez exclusivement de gaz issu d'agriculteurs ou de collectivités. Donc le projet est plutôt séduisant.
Ouais. Denis, une autre question.
Oui, alors en ce qui concerne l'électricité en tout cas, vous êtes en concurrence avec énormément de gens hein, qui vendent de l'électricité verte, etc., qui font à peu près les mêmes prix et tout. Comment vous voyez ce marché et comment vous arrivez à faire la différence?
Alors, beaucoup de gens valorisent une énergie verte. Il faut savoir qu'il y a eu un classement Greenpeace qui a été diffusé en octobre dernier, valorisant la dimension verte de l'entreprise. Et il faut savoir que ILEC ainsi que deux autres petits fournisseurs ont été classés comme vraiment verts. Donc ayant une dimension et un engagement tourné exclusivement sur le renouvelable. Donc tout le monde ne fait pas du vert, beaucoup de gens disent beaucoup de choses, mais allez voir le classement Greenpeace et c'est lui qui vous donnera une idée de où est classé votre fournisseur.
Vous étiez dans quel secteur d'activité avant de lancer votre entreprise?
Alors moi j'étais pas à l'origine j'étais dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur individuellement de m'engager dans des choses qui ont du sens et j'ai rejoint l'aventure avec Julien Chardon qui a eu cette sublime idée en étant auprès d'un producteur de vouloir commercialiser cette énergie. Et quand il m'a parlé de cette ambition de créer un circuit court dans l'énergie, il m'a embarqué dans son projet et on est très content je suis très content de cette aventure avec lui.
Vous allez sur le terrain, vous allez rencontrer les producteurs?
Voilà, alors moi c'est une de mes missions, c'est d'aller rencontrer les producteurs en électricité ou en gaz pour les convaincre et les séduire du projet et pour qu'ils mettent à disposition leur énergie sur la plateforme d'ILEC.
Alors les accueils, les premiers retours que vous pouvez nous livrer?
Bah c'est pour eux, c'est une vraie opportunité de pouvoir adresser leur énergie sur un territoire local. Ouais. Donc ils sont intéressés par le service qu'on propose.
Ils sont intéressés. Ils vous disent oui, ok, ils demandent tout de
suite. C'est pas
si
facile, mais faut les séduire, mais c'est notre travail.
on peut rappeler l'adresse de votre site internet?
Alors c'est ILEK, c'est ILEK.
.fr. D'accord, voilà. Très bien. Merci Denis d'être avec nous pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Merci à vous Rémi Compagnon pour nous avoir éclairé.
C'est le cas de dire.
Merci à vous.
Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.